Vous êtes sur Imagine Radio, tout de suite, le journal.
Eh bien, bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur Imagine Radio pour votre journal. Aujourd'hui, on va parler Urban Art avec GPS Urban Art Corbeil. Ça va se passer du 4 juin au 19 juillet 2024. Ça se passera à la Galerie d'Art à Corbeil. Et pour ce faire, je reçois deux personnes, deux invités. Delphine Blaise, bonjour Delphine.
Bonjour Bruno.
Alors, vous travaillez à la direction des affaires culturelles, on va en parler dans quelques instants. Et on a Vince qui est street artiste et puis qui est là, une autre casquette. Il est commissaire d'exposition, il va nous expliquer tout ça dans quelques instants. Bonjour Vince.
Salut, ça va ?
Ça va. Je suis ravi de vous avoir dans le studio. Déjà, on va s'adresser à Delphine. Alors Delphine, vous êtes responsable de la galerie d'art à Corbeil-Essonne. Déjà, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu l'histoire de cette galerie d'art ? Comment elle est arrivée sur Corbeil et pourquoi il est important de mettre ce lieu en valeur ?
Oui, donc la galerie d'art municipale est un équipement de la direction de la culture, au même titre que le conservatoire, les médiathèques. Elle a été créée en 2001, d'abord installée dans le cloître Saint-Spire, donc c'est une toute petite galerie. Ensuite, nous avons déménagé en 2012 dans la rue Saint-Spire, un bâtiment un petit peu plus grand. Et puis aujourd'hui, donc, nous sommes au rez-de-chaussée du théâtre depuis 2018, dans un endroit qui est beaucoup plus spacieux d'environ 70 mètres carrés et qui nous permet d'accueillir davantage de public, des scolaires, des centres de loisirs, des ateliers tout public, parfois de petites conférences, des tables rondes, des expositions collective. Mais ensuite, je peux vous parler de la principale mission.
Bah oui, ça peut être intéressant de savoir.
De la galerie d'art. Donc, depuis 2001, cette galerie, donc le but de la galerie, c'est de soutenir la création artistique et diffuser l'art contemporain dans le domaine des arts plastiques. Nous programmons des expositions dans plusieurs disciplines, arts plastiques, photographie, sculpture, céramique. Et nous accompagnons donc les créateurs de rayonnement local ou national, puisque ce ne sont pas que des artistes du coin ou du département. Hein. Des fois, c'est beaucoup plus des artistes qui sont beaucoup plus connus. Artistes très souvent professionnels. Voilà. Et concernant les expositions, donc aujourd'hui nous programmons environ 4 à 5 expositions par an. Et puis parfois nous inscrivons dans des événements qui ont une portée, qui sont des événements plutôt majeurs organisés par la ville, par le département ou par GPS. Par exemple, l'année dernière, ou il y a deux ans, l'année dernière, nous avons participé à l'EMFES, qui est l'Essonne Mali Festival, organisé par le département. Et nous avions une très belle exposition qui s'appelait Les Bozos du Mali, qui a attiré énormément de public, pratiquement 800 scolaires d'ailleurs sur cette exposition. Nous participons notamment aussi à des événements comme Rendez-vous au Jardin, le Mois des Droits des Femmes, etc. Donc au départ plutôt le domaine des arts plastiques, arts contemporains, et là justement on essaye de s'ouvrir à d'autres formes d'art.
Alors d'autres formes d'art avec un artiste et pas des moindres qui va en accueillir d'autres. Alors c'est Vince. Vince, déjà, est-ce que vous pouvez vous présenter, nous raconter un petit peu votre histoire de street artiste, si je puis m'exprimer ainsi. Mais je pense que voilà, c'est intéressant. On a la chance de vous avoir dans le studio. Donc voilà, racontez-nous un petit peu votre parcours pour ceux qui ne vous connaîtraient pas.
Donc moi j'ai grandi en Seine-et-Marne, à Vers-Saint-Denis. C'est pas loin d'ici, quoi, c'est une petite vingtaine de minutes. Et je suis arrivé à Corbeil en 2006 et j'y ai habité pendant 15 ans. Bon, je suis toujours un petit peu dans le coin, du côté d'Evry. Pourquoi Grand Paris Sud, tu disais tout à l'heure, moi je me reconnais pleinement dans ce bassin de population, ayant grandi en Seine-et-Marne et puis ayant été actif sur Corbeil, Evry, Grigny, un petit peu toutes les villes alentours. Et c'est vrai que. On va dire que nous, dans l'art urbain, moi j'ai commencé par le graffiti, en fait. Le but, c'est pas de rester dans sa rue ou dans son quartier ou même dans sa ville, tu vois, c'est d'aller un peu conquérir l'espace public. Et donc, la notion d'agglomération, y compris pour énormément de gens que je connais, quoi, dans ton parcours de vie, ce qu'on appelle le parcours locatif, résidentiel, et ben, voilà, les gens ils vont de ville en ville, ils ne s'arrêtent pas vraiment aux frontières, et d'où l'importance, je pense, d'essayer de monter un maximum de projets qui sont à cette échelle-là aussi. Et donc non, voilà, moi j'ai commencé par le graffiti, la ligne RERD, à la fin des années 90, début 2000. Et puis petit à petit, notamment, j'ai eu la chance de voyager en fait, assez tôt, dès les années 2001-2002. C'était encore un peu rare à l'époque. Bon, c'était des voyages, de tourisme, un tourisme de masse. Je me retrouvais dans des hôtels, tu vois, en Tunisie ou à Sali au Sénégal. Et puis moi, je me servais en fait de la peinture, du graffiti, à chaque fois pour échapper un peu à ce jeu du touriste et essayer d'avoir des rencontres un peu plus intéressantes avec les gens. Donc dès que tu commences à peindre un mur dans un endroit, y a un phénomène un peu d'appropriation réciproque, c'est-à-dire que cet endroit il t'appartient et toi tu appartiens à l'endroit en fait. Et surtout ça a fait évoluer ma peinture. Au début je faisais les mêmes graffitis que je faisais en France, sauf que je les faisais pas de manière interdite, puisque souvent j'avais simplement à demander si je pouvais peindre sur le mur, et la plupart du temps les gens acceptaient, parce que autant en France à l'époque le graffiti c'était associé un peu à la délinquance, tout ça, etc. Autant dans tous les autres pays, c'était un peu vu comme quelque chose d'exotique. Et donc ça a fait évoluer ma peinture aussi, parce que au bout d'un moment, je me suis remis en question. Je me suis dit, tu vois, je suis à l'étranger, je fais mon graph, je prends ma petite photo, puis je rentre chez moi, je suis content, j'ai ma photo à l'étranger, tout ça, etc. Mais les gens, eux, ils continuent à vivre avec les peintures que j'ai faites. Et donc petit à petit, je suis passé de l'abstrait, donc du lettrage, au figuratif. Et puis j'ai essayé de créer des choses qui correspondent au lieu où je crée. Et donc du coup je me revendique en fait plus du graffiti mais du muralisme. Pas du street art non plus, le street art pour moi c'est encore autre chose.
D'accord.
Moi j'ai compris que je faisais du muralisme, notamment quand j'étais peintre en Palestine. Tu sais, après je recherchais un petit peu sur internet les peintures qui se faisaient, tout ça, etc. Et donc je tapais murals et je suis tombé, parce que c'est en anglais, ça veut dire fresque, quoi. Et je suis tombé sur ce muralisme qui a été théorisé par Diego Rivera dans les années 20-30. Donc Diego Rivera, c'est le mari de Frida Kahlo.
D'accord.
Et c'est une peinture, on va dire, qui est sociale, qui est engagée, où il peut aussi y avoir de l'écriture, enfin qui s'inscrit vraiment dans une tradition un peu latine du mur peint. Donc ça m'a permis là de vous présenter un petit peu donc ce qu'était le graffiti. Le graffiti donc c'est avoir un blaze, un crew, c'est un mouvement à la base de jeunesse, d'adolescence, bon, qui aujourd'hui a pris vraiment une vraie maturité, mais ça reste sur le travail de la lettre avec cette notion assez forte d'illégalité qui est intrinsèque au mouvement. Après évidemment tu peux te poser le dimanche dans un terrain vague et faire ton graphe, prendre ton temps, faire un truc beaucoup plus coloré et tout ça, etc. Mais le but, c'est de faire voyager ton nom au maximum, qu'il soit le plus vu, donc notamment d'exploiter tout ce qui est grand axe de transport, que ce soit ferroviaire, donc nous ici typiquement la ligne D, et puis les autoroutes, quand on voit ce que c'est devenu, la A6 un petit peu à hauteur d'Evry, moi je trouve ça juste exceptionnel, tu vois, les mecs sont montés sur 3 étages de graphe, ça monte à 10 mètres de haut, enfin tu vois, les murs commencent vraiment à saturer, les styles sont exceptionnels. Et moi, j'apprécie ça énormément, si tu veux, parce que j'ai l'œil. Souvent, je fais la comparaison avec le métal. Tu vois, je me suis retrouvé 2-3 fois dans des concerts de métal. Et waouh, horrible, tu vois. Mais pourquoi? Parce que...
C'est pas ton esthétisme.
Parce que j'étais pas éduqué, en fait, tu vois, à cette culture-là. Donc, pour moi, j'y entendais juste du bruit, tu vois, comme nos grands-parents qui nous disaient « Ouais, vos musiques, c'est du boum-boum. Ouais. » Tu vois, le vrai truc, c'est l'accordéon, la musette. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, en fait, chaque culture, pour moi, nécessite un peu une éducation. Il y a des choses qui sont faciles d'accès, il y a des choses qui sont plus difficiles d'accès. C'est peut-être dans ces choses qui sont plus difficiles d'accès que se trouvent les choses les plus intéressantes et celles qui vont rester dans l'histoire. Et c'est un peu le pourquoi de cette exposition, quelque part, tu vois. Clarence, Delphine m'ont laissé carte blanche. Et moi, la première chose que j'ai eu envie de faire, c'est de faire découvrir ces trésors. Tu vois, il y a eu aussi... toute une série de grands murs peints, tu vois, des façades d'immeubles et tout ça, etc., un peu partout sur l'agglo et puis un petit peu partout en France, hein, on va dire depuis une dizaine d'années. Et c'était vraiment horrible pour nous, tu vois, les acteurs locaux de cette culture, parce que c'était exclusivement réservé à des gens extérieurs au territoire, en fait. Et la tradition du mur peint telle qu'elle se pratique sur nos territoires, elle a une histoire Et cette histoire, elle s'inscrit dans une forme d'appropriation locale, tu vois, où aussi on connaît les gens qui ont fait les peintures, on peut échanger avec eux. Et il y a une tradition, un peu comme les samouraïs, tu vois, nous on a nos anciens. Les anciens, c'est les mecs qui sont nés en 71, 72, qui sont la première génération hip-hop, ceux qui ont commencé par le breakdance en regardant à Chipper, à Choper en 84, tu vois, etc.
Parce qu'ils étaient initiés des blocs parties et compagnie aux États-Unis notamment.
Voilà.
D'accord.
Et puis ben, en 86-87, quand est arrivée cette vague de graffiti où c'était la mode en fait, ouais. Et, bon, tout le monde a eu son tag et tout le monde s'est mis à écrire sur les murs, et ben il y a des gens, notamment de Corbeil-Essonne, qui ont foncé là-dedans. Alors, je citerai des noms qui sont dans l'exposition, comme Firzé, qui est une référence, Firzé qui a grandi à Montconseil, qui a déjà été exposé de nombreuses fois à Corbeil. Cette fois-ci, moi, ce que j'ai essayé, en fait, pour pouvoir faire comprendre un petit peu tout ce que j'essaie de raconter là rapidement, j'ai essayé de mettre un maximum de texte dans cette exposition. En fait, de partir du point de vue que l'art urbain est un des arts les plus intrusifs, il s'impose à nous, en fait, tu vois, c'est-à-dire comme la publicité et tout ça, etc., il vient dans notre quotidien. Et finalement, il est subi par beaucoup de personnes parce que ces gens-là ne le comprennent pas, n'ont pas les clés de lecture. Tu vois, moi, je vais voir un tag, la plupart des gens vont trouver ça tout pourri ou voir ça comme une nuisance ou relier ça à la délinquance. Moi, je vais y voir un trésor de calligraphie, tu vois, parce que je vais reconnaître à quel style ça fait référence, de quelle époque c'est, peut-être même quelle bombe a été utilisée, parce que je vois la transparence, je vois que le jet, il est puissant. Je me dis, voilà, ça, c'est un... Et donc là, tu vois, ces derniers temps, j'ai parcouru Corbeil dans tous les sens pour l'exposition et j'ai retrouvé des traces, pour moi des vestiges, des fossiles datant de 1987, tu vois, à l'époque, ouais. Les mecs, ils taguaient avec les bombes. Bon, à l'époque, ils volaient, en fait, tu vois, voilà, ils allaient voler toutes les bombes qu'ils pouvaient. Il y avait très peu de protection dans les magasins. C'est pas à faire, hein, c'est pas quelque chose que je conseille, mais c'est l'histoire, et le but, c'est aussi de connaître son histoire. Et donc ils avaient des bombes anti-rouille, des bombes pour voiture, tu vois, des bombes assez extraordinaires. Et pourvu que l'endroit soit pas trop exposé au soleil, tu peux retrouver des tags qui ont 35 ans et qui sont presque comme neufs. Enfin, tu vois, tu as l'impression qu'ils ont été faits il y a 2-3 ans, tu vois. Donc, j'ai retrouvé là un tag de Rex. Rex, qui avait créé le crew des Dames, donc DAM, au Tarteret, là, au niveau de la chaufferie. Tu vois, c'est un mur qui est un peu incliné, etc. Bon, pour moi, c'était fabuleux de voir ça, tu vois. Et aujourd'hui, moi, je suis même dans une réflexion de comment on conserve en fait ce patrimoine. C'est-à-dire qu'on a encore des traces réelles des racines, de la genèse de ce mouvement sur nos territoires. Et elles disparaissent au fur et à mesure. Tu vois, pour te dire, il y a un autre mec qui expose là, qui s'appelle Seger. Lui, Seger, il est de Grigny, il est de Grigny 2. C'est aussi intéressant parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas les frontières de ville, de quartier. Tu vois, tout le monde était assez... unis, se fréquentaient.
C'était un mouvement, de toute façon.
C'était un mouvement qui était très fédérateur, avec quand même des valeurs assez positives, même si le contexte était pas simple. Et tu vois, ce gars, il y avait vraiment une sorte de petite cabane de la SNCF à hauteur de Villeneuve-Triage, qu'on a toujours vue. Cette cabane, justement, elle est exposée dans l'exposition, en tout cas la trace photographique qu'il en reste, et elle est mythique parce que donc il y avait un tag, donc un graphe de Seger. Seger, son cousin, c'était MC Solar. MC Solar, faut savoir, il habitait à Villeneuve-Saint-Georges, il était sur notre ligne de RER et tout ça, etc. Donc il y avait un tag à lui, et il y avait aussi un graphe de Creator, qui est quelqu'un qui est décédé, quelqu'un qui était du quartier de Loly à Vigneux-sur-Seine. Et pareil, c'était comme un petit fossile, tu vois, qui devait dater de 88 ou 89. Et quand j'ai interviewé justement Seger, il m'a dit, tu sais quoi, Vince, le cabanon, il vient d'être démoli là, il y a une semaine, on m'a dit. Et pour moi, tu sais, c'est dramatique, c'est comment te dire, peut-être la comparaison, elle est grande, mais moi, pour moi, c'est comme la Joconde, ce truc. Enfin, tu vois, c'était vraiment un truc où, si tu connaissais, si tu étais capable de comprendre ce que tu voyais, c'était un vrai petit trésor. Et donc la SNCF, elle a plein de trésors comme ça. Même les communes ont encore des trésors comme ça. Et
aujourd'hui, ça fait pratiquement partie du patrimoine.
C'est ça. Pour moi, ça fait partie du patrimoine. Ça fait partie de l'histoire.
Il y a une reconnaissance aujourd'hui, vous diriez, de ces formes d'art, parce qu'on a parlé de street artisme, on a parlé de muralisme et autres techniques, je dirais. Vous trouvez qu'aujourd'hui, il y a quand même plus de reconnaissance, on est moins dans le vandale, ça existe encore, on est toujours où on a, c'est pour le style, pour le fun. par rapport aux masses qui pourraient se dire, bah tiens, ouais, c'est fun de colorer les murs, mais en fait, voilà. Est-ce qu'il y a une reconnaissance selon vous? Il y a une évolution?
Ouais, bah forcément, ça évolue toujours. Donc, entre ceux qui ont commencé en 87, là, 88, il y en a qui continuent encore. Tu vois, c'est souvent vu comme un mouvement de jeunesse. Bon, faut savoir, voilà, nos anciens, ils ont 50, 55 ans pour les plus vieux, quoi. Ils approchent de la retraite, en fait. Et en même temps, bah, y a eu un renouvellement des générations. J'ai l'impression que ces derniers temps, quand même, en tout cas au niveau de ce qu'est le graffiti, avoir un blaze, un crew, y a un petit peu moins de renouvellement. En même temps, le phénomène, il a vraiment muté avec l'arrivée des réseaux sociaux. Avant, il fallait aller les voir, les œuvres. Tu vois, moi, je me suis vu à 20, 22 ans aller marcher le long des voies ferrées pour voir de près et en grand et en vrai et avoir le temps d'admirer ce que je voyais comme une tache de couleur en passant à 80 km/h, tu vois, avec le RER ou en voiture, quoi. Aujourd'hui, tu prends la photo, elle est immédiatement diffusée sur Instagram et ça change bien des choses et c'est intéressant, voilà. Et puis en même temps, il y a eu l'arrivée du street art à peu près à partir du milieu des années 2000 où des fois ça fusionne avec l'art contemporain. Tu vois, j'en parlais hier avec Aleteia, pareil, qui est une artiste, on peut dire artiste contemporaine, qui réside à Corbeil-Essonne et qui, comment dire, elle a commencé au début des années 2000 par le pictograffiti. Le pictograffiti, en fait, c'est se choisir un symbole. Elle, ça a été une étoile. Aleteia, voilà, une étoile, comment dire, qui inspirait un peu des shurikens. Et puis, oui, elle en fait des constellations.
D'accord.
Et c'est choisir ce symbole-là et le pousser au maximum. Ceux qui sont le plus connus un petit peu dans cette discipline, c'est, on va dire, quelqu'un comme Zeus ou Space Invader, qui est super connu. Donc lui, il a pris son petit symbole là, de jeu vidéo, et puis il l'a poussé, et puis il parle. C'est devenu son langage, quoi, la matrice de son langage. Et donc voilà, quoi. Aleteia, là, elle revient du Musée des Beaux-Arts de Nancy. Elle a fait une exposition, ce qu'on appelle un solo show, donc une exposition entièrement toute seule, et voilà, personnelle exactement, et donc avec des moyens impressionnants, peut-être quelque chose qu'il doit faire, je sais pas, j'ai pas eu la chance d'y aller, mais plus de 500 mètres carrés, enfin tu vois, c'était vraiment, elle me l'a raconté, j'ai vu quelques photos, ça a juste l'air exceptionnel, tu vois, j'ai qu'une envie, c'est d'aller à
de
Nancy
pouvoir faire la même.
Voir ça. Et voilà, c'est quelque chose de très varié. Il y a ce qu'on appelle les plans Lego. Tu vois, ça existe un peu depuis toujours. Bah justement, quand il y a eu les graffitis qui sont apparus, bon, bah, les gens, ils ont vite compris que s'ils voulaient avoir quelque chose d'un peu mieux que ce qu'ils ne comprenaient pas, c'est-à-dire les tags, c'était bien de faire appel à quelqu'un qui fasse une peinture un peu plus structurée, un peu plus acceptable, avec des jolies couleurs et tout ça, etc. Donc ça peut être pour EDF, GDF, ça peut être pour la ville, pour la MJC, une publicité pour une entreprise, etc. Et donc je disais, ouais, voilà, le street art est arrivé un peu vers 2005, donc il y a un peu une fusion quand même avec l'art contemporain, c'est devenu très à la mode, et c'est là que justement on a vu un peu les nacelles arriver, les gros murs se peindre, voilà, tout d'un coup c'est passé de quelque chose entre guillemets lié à la banlieue, où on faisait du socio-culturel, tu vois, des animations dans les MJC pour occuper les gamins et tout ça, etc., à quelque chose de reconnu. Mais entre-temps, on y a perdu une grande part de l'âme de la chose. Moi, je me suis vu faire des rendez-vous, tu vois, avec des politiques où on me disait, voilà, il faut faire venir des artistes, mais par contre, les lettrages, c'est interdit, parce que les lettrages, c'est les émeutes et tout ça, etc. Sauf que nous, notre histoire ici, là, en Grande Couronne, le graffiti, ça a été une porte d'entrée fabuleuse pour plein de gens, issus des classes populaires notamment, mais pas que, dans le monde de l'art, la pratique culturelle et tout ça, etc. Donc si à un moment donné, tu coupes ces racines, en tout cas nos racines à nous, tu rates complètement quelque chose. Et au lieu de créer de l'épanouissement pour tes artistes locaux et pour ta population et tout ça, etc., et évidemment d'inviter aussi des pointures de l'extérieur et tout ça, mais dans une certaine forme d'équilibre, et eh ben au contraire de ça, tu produis de la violence symbolique, tu produis de la frustration, tu vois, parce que nous, bah voilà, il y a des murs, on passe devant depuis 15, 20 ans, on en rêve, et un beau jour, sans qu'on soit au courant, sans que...
Il y a quelque chose qui se passe.
Voilà, boum, il y a quelqu'un qui vient, qui le peint. Cette personne, la semaine dernière, elle était à Melbourne, la semaine prochaine, elle sera à Séoul, et elle peint ce mur, et puis elle s'en va. Et puis c'est quelqu'un dans un bureau qui a décidé, parce qu'il préférait le bleu au rouge, qu'il y aurait ça. Tu vois, et moi, c'est pas ma conception de la peinture murale. Bon, après, c'est bien... En tout cas, dans cette exposition, l'idée, c'est que on puisse tout voir, aussi bien des murs commissionnés, des trucs très faciles d'accès, des trucs de geek, du graffiti, du street art, du muralisme, voilà, il y a des artistes de 27 à 75 ans.
Ça, c'est important, justement. Oui. Bah oui, c'est ce que nous disait Delphine en antenne. J'aimerais bien qu'on s'arrête un petit peu sur les artistes. Vous en avez cité quelques-uns. Mais voilà, on a un doyen sur cette expo. Racontez-nous voilà, ce choix de vouloir travailler, j'ai envie de dire, cette transmission. On sent que c'est quelque chose qui transpire dans ce que vous dites, l'importance de transmettre. Et surtout aussi un autre truc sur lequel je vous rejoins, et c'est ce qu'on essaye de faire avec la radio, c'est le fait d'utiliser l'histoire comme outil de compréhension du monde pour pouvoir savoir un peu où on en est aujourd'hui. Et c'est important, nous en tant qu'anciens, parce qu'on malheureusement maintenant aujourd'hui on fait partie des anciens, on commence en tout cas à en faire partie, donc on a besoin de faire le relais, justement l'écho de nos grands frères et ainsi de suite. Et donc voilà, moi j'ai envie de rentrer un peu plus dans les choses. D'abord je voudrais m'adresser à Delphine et après on reviendra sur cette histoire de programmation et pourquoi avoir travaillé l'intergénérationnel. Delphine, pourquoi vous avez décidé de donner une carte blanche, et Delphine et puis Clarence, qui est le directeur des affaires culturelles, à qui on dit bonjour, mais pourquoi vous avez fait le choix de donner carte blanche à Vince?
Alors pourquoi? Parce que déjà nous on suivait le travail de Vince, on ne le connaissait pas forcément personnellement, mais effectivement Vince, ça fait très longtemps qu'il travaille et sur la ville et dans les environs, et donc déjà son travail, on s'y intéressait beaucoup. Et puis il y a un an, la Galerie d'Art a décidé aussi de sortir un peu de ses murs, de faire du hors les murs, et on a donné une première carte blanche à un collectif qui s'appelle V3M, où là on a pu faire une soirée avec eux, une exposition éphémère, et là on est carrément parti avec des sculptures sur le parking devant la galerie, une soirée avec DJ Cobra, etc. Et donc là on s'est dit les arts urbains, on a vraiment envie de développer ça sur la galerie, et on savait qu'on avait Vince aussi qui était sur le territoire, et ce qui nous paraissait vraiment important, c'était aussi tout le travail que Vince fait autour des archives et, comme on disait, de l'histoire et de toutes ces peintures qui aujourd'hui font partie du patrimoine. Et donc Vince est venu nous voir aussi avec ce projet, avec l'association Une Seule Couleur. Et donc nous avons décidé de faire un partenariat de 3 ans avec Vince. Donc voilà, carte blanche où Vince est le commissaire, c'est-à-dire que c'est lui qui va choisir les artistes, qui va imaginer le concept de l'expo, la communication autour de l'expo. Et donc, cette première année, c'est vraiment sur les 35 ans d'archives, d'histoire, de ces peintures, de ces graffeurs, de ces tags, de ces graffitis. Enfin, voilà, c'est lui qui va nous en parler un peu plus en détail. Et donc, nous aurons 18 artistes qui exposeront. Mais on est vraiment sur... on a des œuvres, première œuvre, œuvre intermédiaire, œuvre récente. Mais des toiles, on en a très peu. Mais... ce qui est intéressant, c'est tout le travail d'archives, des photos qui datent d'il y a très longtemps. Et Vince va nous expliquer un petit peu le concept. Il a vu ça comme une enquête policière. Et voilà.
Moi, je trouve ça génial. Hein. Perso, je trouve ça génial. Et on a envie d'y aller. Donc c'est ça qui est intéressant, et moi c'est ce respect, en fait, ce qui est intéressant, c'est ce respect de l'histoire, en fait, le respect d'un territoire, d'aller chercher la connaissance, d'aller chercher les liens et les liants, et c'est ça qui est intéressant. Justement sur cette programmation, Vince, racontez-nous un peu ces artistes que vous faites venir, le doyen au plus jeune, pourquoi ces artistes-là?
Le doyen, c'est Jean Stark. En fait, moi, j'ai habité un petit peu à Évry, cité des artistes, et c'était mon voisin. C'est comme ça que je l'ai rencontré. Jean Stark, il est né dans les Vosges en 1948.
Voilà, moi, il a joué dans Game of Thrones, c'est ça? Non, pardon. Pardon.
Mais il a un blaze, la classe, tu vois, Stark.
Ah, franchement, Jean Stark, j'avoue.
C'est son vrai nom. Hein? Et donc, lui, voilà, un peu la génération de 68. Il atterrit à Paris, à la fac de Vincennes, au moment où c'est une fac un peu autogérée, psychédélique et tout ça, etc. Et puis lui, surtout, il commence à s'épanouir fin des années 70, début 80, surtout les années 80, dans ce mouvement des squats qu'il y a sur Paris, des squats artistiques. Et où donc, du coup, il développe toute une peinture autour de cette notion de squat, en s'appropriant des choses, des images, et puis en les retouchant, en les remixant un petit peu à sa sauce. Et puis, son lien avec le territoire, il va commencer Fin des années 90, peut-être milieu des années 90, je ne sais plus. Mais en tout cas, il va atterrir au KS à Ris-Orangis, qui reste un lieu mythique dont j'ai vraiment croisé la trace de nombreuses fois dans cette enquête que je vous propose, là, Urban Art GPS Corbeil. Et donc, il va vivre au KS, il va créer au KS, et puis il va ensuite atterrir à la Cité des Artistes. Et voilà, lui... le lien, bah voilà, c'est le lien avec, c'est un peu, on va dire, comme des pionniers ou des ancêtres d'une certaine forme de l'art urbain. En tout cas, c'est très lié. Même si eux s'exprimaient très rarement dans l'espace public, là, il y a quand même d'exposer une de leurs rares interventions, c'était avec le collectif Art Cloche. En fait, ils allaient se faire expulser d'un de leurs lieux, là, dans le 18e ou 19e, ou je sais pas quoi. Ils se sont dit, ouais, faut qu'on fasse une petite action un peu médiatique et tout, je crois que c'est en 88. Et donc, ils décident de peindre un gros arc-cloche gigantesque sur le sol, le parvis du musée Georges Pompidou, là-bas, là. Et de manière à, voilà, à faire un petit coup d'éclat et tout ça, etc. Et c'est intéressant parce que dans l'exposition, on a aussi donc Aletheia, dont je parlais tout à l'heure, qui, elle, 20 ans plus tard, en 2017, va le faire, mais de manière légale, de manière commissionnée. Ça va être la première à peindre ce parvis, mais de manière autorisée pour le centre Georges Pompidou, en faisant participer des enfants, tout ça, etc. Et tout. Après, dans les Benjamins, on a quelqu'un comme Glaçon, pareil, lui qui habite à Corbeil, qui a grandi à Nagy. Et lui, il est pochoiriste. Donc, un peu plus dans cette vibe un peu street art. Il démarre, lui, dans les années 2010-2015. Et puis, très intéressant, un univers marqué. Il est d'origine portugaise. Là, il vient de faire une rétrospective, un calendrier de l'avant de la Révolution portugaise, dont on fêtait les 50 ans. Où donc, sur 25 jours, il a peint 25 personnalités d'origine portugaise. C'est quelqu'un, voilà, qui a intrinsèquement les réseaux sociaux, qui joue beaucoup avec ça. Donc, il va faire une peinture. Il va immédiatement la diffuser sur Instagram avec le petit texte qui va avec, qui permet, c'est de la médiation culturelle.
Bien sûr, voilà, c'est l'éducation artistique et culturelle.
Super. Et donc lui, voilà, vous pourrez découvrir un petit peu comment il a commencé, son univers. Je pense que c'est vraiment un artiste à suivre. On a Culotte, qui est à peu près le même âge, peut-être un poil plus âgé. Culotte, donc, c'est une jeune fille, bah voilà, elle, normalement, vous l'avez tous vu, vous avez tous dû remarquer le long des autoroutes, le long des grands axes, des culottes. Alors, il peut y avoir des culottes Wu-Tang Clan, comme à l'entrée de la A6 à Évry, des culottes Mickey, des culottes girafes, des culottes à fleurs. Voilà, elle est un peu dans ce que j'expliquais tout à l'heure, là, le picto-graffiti, c'est-à-dire qu'elle s'est emparée de ce symbole. Ça vient aussi un petit peu dans cette ère MeToo d'affirmation d'une certaine féminité qui est, comment dire, fière, quoi. Et je la trouve vraiment très très intéressante. Pareil, je trouve que c'est vraiment quelqu'un à suivre, c'est vraiment un plaisir de vous la présenter. Et puis bon, bah voilà, elle fait ça la nuit, hein, et comment dire, de manière vraiment remarquable. Et donc, pareil, c'est vraiment un plaisir de vous la présenter, de permettre un petit peu de savoir un petit peu qu'est-ce qui se cache, quelles sont les réflexions, quelle est l'histoire de cette culotte, comment elle est arrivée. Je trouve que c'est super intéressant. Après, plein d'artistes, donc de Corbeil, je citerai Mikey G, qui est juste une légende urbaine au Tarteret, qui avait peint cette célèbre fresque rue de la Mort, avec notamment Maud Tou, qui est une pointure internationale. Donc ça, on est sur la fin des années 90, avant la rénovation urbaine, avant que les Tarterets soient vraiment beaucoup démolis. Qui est-ce qu'on a d'autre ? On a Lerda, on a Tempo qui a grandi à Loli, là, le même quartier dont je parlais sur Creator. C'est marrant parce que lui a été influencé justement par ses peintures de Creator. Enfin, en tout cas, ça fait partie des premiers chocs visuels. Et Tempo, aujourd'hui, bah, il habite pas très loin de Corbeil. Lui, il travaille sur la transparence, donc vous avez sûrement pu déjà admirer une de ses œuvres de manière un peu grande sur Hélio Corbeil, voilà, où donc il a représenté des bulles dans le reflet. On peut voir un peu la skyline de Corbeil avec les moulins, et il y a aussi une image d'une dame qui était typographe, donc c'était un hommage un petit peu à l'histoire de cette imprimerie Hélio, et qui s'appelait avant Creuté, et qui était une usine gigantesque avec plusieurs milliers de personnes qui travaillaient là-bas, et notamment avec qui était assez pionnière sur l'emploi des femmes. Donc pareil, des clés de lecture de Tempo. On découvre aussi comment est-ce qu'il en est venu à cette transparence. Ce qui est intéressant un petit peu avec l'art urbain tel que nous on le fait vivre, tel qu'on le pratique, c'est quelque chose où les choses s'imposent d'elle-même. C'est-à-dire que la démarche artistique, elle commence avant tout par le faire, un peu le just do it des punks des années 80. Et c'est en faisant qu'on se découvre, qu'on s'organise, qu'on comprend ce qu'on est en train de faire finalement. Et c'est vraiment du coup très riche et puis bah, très adapté aux choses parce que ça vient assez naturellement. Et c'est vrai que moi je suis très sensible à ces parcours où on commence par le terrain et puis petit à petit on grimpe, mais il y a une histoire derrière, il y a un vécu et il y a une relation au territoire, aux êtres humains. Des liens très forts, toute cette scène, les gens bah, se connaissent, s'entrecroisent, des fois se déchirent aussi. Et qui est-ce que je pourrais vous parler d'autre? Delphine, tu me files un coup de main, qui est-ce qu'il y a d'autre?
Johan Borsato.
Johan Borsato, ah, comment j'ai pu le dire. Johan Borsato, lui c'est...
Donc on en est à 14.
C'est quelqu'un qui a grandi à Auxerre, enfin autour d'Auxerre, dans le monde rural. Et puis bah, qui est sur Corbeil depuis allez, peut-être une petite dizaine d'années, sans doute un petit peu moins. Pareil, lui, il a commencé par le graffiti et puis sous l'influence de beaucoup de voyages en Amérique latine, il s'est mis à la peinture. Et je ne vais pas vous en dire plus, juste il faut venir voir, c'est exceptionnel.
Ouais, parce que là, déjà, on a dit beaucoup de choses. Et en même temps, c'est super intéressant et c'est ce qui fait que voilà, ce journal va durer forcément plus longtemps.
Il y a
parce
Dawa
que, voilà,
aussi.
Il y a plein de choses. Mais est-ce que justement, dans cette période-là, du 4 juin au 19 juillet, il va y avoir des temps forts. On va parler du 23 juin dans quelques instants. Mais est-ce qu'il y a un vernissage de prévu, un temps, on va dire, officiel de lancement, Delphine?
Alors justement, tout se passe le 23 juin, c'est d'accord. Vraiment le jour où il faut être là.
Je savais bien qu'il y avait un truc.
Voilà, où les artistes seront là pour venir rencontrer le public et où différents ateliers voilà, seront organisés aussi. Donc Vince va pouvoir nous parler de ces ateliers, mais l'idée c'est vraiment que ce soit une journée festive, une journée familiale. On a vraiment envie que les enfants viennent et comme je le disais tout à l'heure, ce sera aussi un vernissage, mais aussi à l'extérieur, avec un DJ, avec, ce sera un dimanche après-midi.
Dans toutes ces formes d'art, il n'y aura peut-être pas la danse, mais en tout cas, il y aura de la musique, il y aura les arts plastiques. L'idée, là, on est encore plus dans la transmission, c'est-à-dire qu'on a la rencontre qui se fait, donc on fait la rencontre artistique, on crée la rencontre artistique, ensuite on nourrit le répertoire des plus jeunes, et bon, j'ai envie de dire de tous les publics, et le troisième point, on les fait pratiquer. Donc là, on est totalement dans l'éducation artistique et culturelle, ouais, à l'état pur.
Et en plus, je ne vous en ai pas parlé, on reviendra sur la journée du 23 juin, mais on a un service qui s'appelle Action Culturelle, avec Cindy et Élise, qui justement font des médiations en direction des scolaires, des enfants des centres de loisirs, qui animent aussi des visites pour le tout public. Et elles, justement, vont organiser des médiations, ateliers blaze, etc. Donc il faut vraiment s'inscrire si les enseignants vous êtes intéressés, ou les directeurs de centres de loisirs,
comment
si vous
fait,
voulez.
Voilà.
Donc on s'inscrit auprès de Cindy Duarte, où vous pouvez tout simplement appeler la galerie d'art. Le numéro de téléphone, vous le trouvez sur le site internet de la ville, 01 60 89 88 92. Et donc, vous pouvez vous inscrire et venir participer à une médiation. Et le 23 juin, Cindy et Elise seront aussi là pour faire le lien entre le public et l'exposition et vous faire visiter l'exposition tout l'après-midi.
Vince, on revient sur le 23 juin. Cette journée-là, vous avez souhaité la partager avec un maximum de gens. Vous ciblez les familles, donc parents et enfants. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire concrètement? Est-ce qu'on va pouvoir venir faire du dessin, banalement, j'ai envie de dire?
Voilà, c'est ça. Bah, nous, c'est vrai qu'il y a une tradition qui s'appelle le sketch. Le sketch, c'est la pratique en fait, sur papier. C'est tout ce qui est croquis et tout ça, etc. Donc déjà, il y aura une très grande table avec plein de feuilles, plein de feutres, plein de Posca, plein d'artistes qui pourront vous tracer vos blases, ou bien si vous avez envie d'essayer par vous-même, vous pourrez le faire aussi. Avec aussi des dédicaces. Il y aura plein de photos aussi. On va imprimer énormément de photos des œuvres qui sont exposées, de manière à ce que chacun puisse repartir aussi avec une petite photo, un petit souvenir de l'événement. Après, un petit atelier sérigraphie avec Zikos, une démonstration de customisation de chaussures et de blousons en jean à l'aérographe par Connie, un atelier maquillage avec l'association CLT. Là, je viens juste de finir de le boucler, donc il y aura aussi du light painting avec Matt.
À l'ancienne.
qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre Murals, l'association Murals qui va faire un atelier pop-up. Et aussi, on pourra exploiter un petit peu le sol devant la galerie, sur la route, avec la craie. Et puis c'est à peu près tout, je crois. Hein. Mais c'est déjà pas mal.
Voilà. C'est déjà un beau programme. Voilà. Ça.
Et le DJ qui
et
sera
puis,
là.
Il y aura
aussi
la présence des artistes, donc ceux que j'ai pas encore cités, mais Chaka, incroyable, Chaka, Dawa, pareil, enfin ils sont tous incroyables, Laser et Sanders, Réo, des EELM et du collectif V3M, et aussi Shore, voilà, et Sgouniz, Sgouniz qui a customisé des Ghetto Blasters, donc super intéressant. Enfin voilà. Et
c'est les anciens postes, vous n'avez peut-être pas connu, vous les jeunes, hein, mais avant on écoutait ça sur des postes, voilà, cassettes, alors des postes qui faisaient à peu près 40 cm de long sur 20 cm de large, mais au moins on entendait bien les choses. Ok, merci à vous d'avoir accepté de répondre à nos questions. Plus d'informations sur voilà, toutes les manifestations. Je rappelle, hein, GPS Urban Art Off Corbeil, je rajoute le off personnellement, mais c'est Corbeil tout court, hein, sur le www.corbeil-essonne.fr. Juste une petite dernière question d'actualité, mon cher Vince, parce que je dirais, alors, un ami en commun qui est de l'autre côté, un peu plus dans le sud Essonne, je veux parler d'Opar, Alexandre Montero, qui dernièrement a fait la une de l'actualité. Grâce à un footballeur très connu, M. Mbappé, qui a acheté une de ses toiles. Alors, le montant, on s'en fiche un peu, mais bon, c'est pas anodin pour lui, j'ai envie de dire, et nous, on est très heureux pour lui. Mais toi, qu'est-ce que ça t'évoque, qu'est-ce que ça t'inspire, cette reconnaissance, je dirais, ou non, hein, par rapport à cet artiste Opar, qui lui est plus street artiste, on peut dire ça?
Ouais, c'est ça. Bah, ce qui est intéressant déjà chez Opar, c'est que je vous parlais à l'instant de Chaka, là, qui expose, donc un artiste bien connu qui a grandi à Lise, Courcouronne, un petit peu ce coin-là. Et ben Chaka, il était, c'était le professeur d'art plastique de Opar, justement, c'est raconté dans l'exposition. Et Opar, donc, qui est de Limours, bah, ça fait toujours plaisir parce que bah, c'est quelqu'un dont on a vu un petit peu l'émergence arriver, quoi, quelque part. Et ça peut que nous rendre fiers, quoi. C'est quelqu'un de chez nous. Après, bah, voilà, Mbappé, il a posé le demi-million.
C'est clair.
Là, tu te dis, bah, moi, je peux acheter deux maisons avec ça.
C'est clair. Voilà.
Donc, il y a un côté aussi un peu... intéressant, bah, parce que c'est pour une œuvre de charité. Il faut savoir que les sous, ça, là, ouais, ne vont pas au Opar, hein, c'est non, le gala du PSG. Opar donc a fait don de cette œuvre qui représente Pelé, c'est le roi Pelé. Donc Mbappé a mis ce demi-million qui va aller pour des œuvres humanitaires.
Caritatives.
Donc voilà, quoi, c'est top. Bah, et en plus, du coup, bah, y a tout un phénomène qu'on découvre aussi un peu dans l'exposition de cote, en fait, au niveau des artistes. Donc quand tu as vendu une toile à 100 000 ou à 50 000 euros, bah, en fait, ça fait monter ta cote. Ça veut dire que tes toiles suivantes, elles doivent se vendre à peu près dans ce prix-là ou pas trop loin, quoi. Donc là, bah, pour Opar, on en parle. Donc déjà, c'est, en termes de publicité, c'est
bah,
juste
c'est une grosse
incroyable. Voilà, quoi.
Après, moi, pour moi, c'est une forme de... Il n'est pas arrivé au summum, mais je veux dire... voilà,
reconnaissance, tu veux dire.
Ouais, c'est pas ce terme-là.
Consécration.
Voilà, une forme de consécration, c'est ça. Merci beaucoup, Vince. C'est rare qu'on se termine, mais bon, merde. voilà, cette consécration, et voilà, moi, pour l'avoir connu, et puis avoir bah, justement fait de l'EAC avec lui, puisqu'on on avait monté une émission de radio avec Opar et des jeunes du lycée de Limours. Il avait accepté à l'époque de jouer le jeu, il était venu en classe, on avait fait voilà, tout un travail éducatif, et on avait réalisé, enfin j'avais fait faire réaliser une émission par les jeunes voilà, du lycée, qui ont voilà, travaillé avec les artistes en amont, et ils avaient joué le jeu, et voilà, bon, c'est pour ça que je voulais faire une petite dédicace, parce que quand j'ai vu la une, j'étais aussi quelque part fier aussi de son parcours.
Bah écoute, franchement, si tu pouvais nous ressortir le podcast et nous mettre ça sur Imagine Radio, voilà.
J'avoue que là, c'est possible, puisque j'en suis le producteur.
et je voulais juste rajouter quelque chose pour faire le lien justement avec Imagine Radio. On n'en a pas parlé, il me semble, Vince, mais dans l'exposition, vous avez 5 ou 6 postes de radio. Ancien poste de radio des années... Enfin, moi, j'avais ça dans ma chambre quand j'étais jeune, dans les années 90. Et ils sont tous... Vin, si tu peux juste nous dire un mot sur le nom de l'artiste. Et,
ouais, c'est ça, c'est Sgouniz.
C'est Sgouniz,
ouais,
voilà,
c'est ça. Je disais, Sgouniz, donc ouais. il a customisé ses postes. Il y en a même qui sont phosphorescents. Donc vraiment un travail à découvrir ultra riche, quoi.
Voilà, et il passe des cassettes dans les postes. Et tout au long de l'exposition, on aura ces postes qui seront... voilà, on espère un jour pouvoir écouter Imagine Radio sur ces postes.
Bah, j'espère, en tout cas on fait tout pour. Merci beaucoup Delphine Blaise et Vince d'avoir accepté de venir dans les studios d'Imagine. Nous on est ravis de suivre cet événement Urban, GPS Urban Art Corbeil du 4 juin au 19 juillet 2024 du côté de la galerie d'art de Corbeil-Essonne qui se trouve à côté, sous le théâtre, à l'entrée du théâtre, rez-de-chaussée du théâtre de Corbeil-Essonne. On vous donne rendez-vous. Plus d'infos sur le www.corbeil-essonne.fr. Voilà, c'était Bruno. J'étais ravi de vous retrouver pour ce journal. Et puis, à dans une heure pour la suite de l'info sur Imagine Radio. Ciao, ciao.